Bonsoir, je coupe le son ici, voilà. Bonsoir à tous et à toutes. C'est gentil d'être revenu pour le dernier cours de l'année. Alors je sais pas ce qui se passe, pourquoi il y a si peu de monde aujourd'hui, je sais pas. Sinistrose ambiante peut-être, je sais pas. Plus envie de voir de physique, des expériences avec des bulles, je sais pas. En tout cas, c'est gentil, c'est le dernier cours de l'année. Donc on va bien en profiter. Je vais juste commencer par un petit bilan de l'année pour ceux qui n'auraient pas été là. Je vais vous refaire tous les cours de l'année en accéléré. Donc on avait commencé avec un cours particulièrement spectaculaire puisque c'était fait par moi sur le changement climatique. Ça c'est pour indiquer aussi que vous retrouvez tous les documents sur le site web. Si vous étiez là, vous vous souvenez peut-être qu'on a eu des petits soucis avec avec l'enregistrement vidéo, donc faut que je trouve encore le temps de réenregistrer les cours. J'ai pas encore eu le temps, mais normalement à terme vous devriez être capable de retrouver tous ces cours ici. Ensuite, on avait embrayé sur un cycle de 5 cours par votre collègue de l'IPCMS, Pierre Gillot, sur les sens, en particulier la vue et l'ouïe, donc à la fois le son et l'image, avec quelques petites choses sur la musique et la vidéo à la fin de ce cycle. Donc ça, c'est aussi pour vous encourager à aller voir sur le site tout ce qu'on peut y trouver. Tiens, il manque quelque chose. Dites donc, il y a un truc qui a disparu entre les deux. Il est où Yves? Il n'est pas là ce soir-ci. On avait eu quand même un cycle sur E égale MC2. Donc ça, c'était juste avant les vacances de printemps. Donc là aussi, vous pouvez retrouver tous les documents sur le site web. Et puis, évidemment, ça c'est ballot quand même, que je l'ai oublié ici, enfin il a disparu. Et puis ce dernier cycle avec purement expérimental. Et j'indique encore à nouveau toutes les informations qui sont nécessaires pour rester en contact avec nous. Les réseaux sociaux, bon, Facebook essentiellement, donc c'est un truc de vieux, je suis désolé, puisque plus aucun de moins de 25 ans, je pense, utilise Facebook, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, on n'est pas encore passé à des choses plus modernes encore pour le moment, mais vous pouvez aussi nous écrire pour qu'on vous inscrive aux listes de diffusion pour être sûr de manquer aucune information. Sinon, le site web est toujours à jour. Vous pouvez retrouver toutes les dernières informations, l'annonce des différents cours. Si vous ne savez pas cet été quand on recommence Physique pour tous à la rentrée, vous pourrez aller sur le site web pour savoir. Pour l'instant, les dates ne sont pas encore fixées. Probablement mi-septembre. Pour la prochaine édition, si tout va bien, bien sûr, hein, d'ici là, il peut se passer plein de choses. Voilà. Je vais laisser la parole à mes collègues Pierre et Thierry tout de suite pour le début. Donc, comme ceci, je pense que ça va. Vous avez vérifié que... Ah, il faut encore faire comme ceci. Dupliquer, c'est ça? Voilà. Très bien, je vous laisse.
Merci Thierry. oui, bonsoir à tous. Et puis merci.
Bonsoir.
Merci beaucoup à ceux qui sont revenus. Donc on va peut-être pas se représenter. Je vous laisse essayer de deviner qui est Pierre et qui est Thierry. On a changé l'ordre des speakers parce qu'ils n'auront pas la parole après quand on lui la donne. On va recommencer en fait. On va recommencer en essayant de faire une manip qui a fini par marcher la semaine dernière, mais qui est plus spectaculaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment fait le produit magique. D'ailleurs, ça se sent parce que si on risque de se casser la figure, ça glisse de partout. On en a foutu de partout et comme là, il y a du lubrifiant, ben ça glisse. Et peut-être juste pour faire un petit rappel, si j'arrive à faire passer les slides, hein, ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Je vais les faire passer. Tu crois? Non. Ah si, voilà. Ah, je ne les fais pas défiler dans le bon sens. Bon. La semaine dernière, on vous a parlé un petit peu d'interface et défini cette notion de tension de surface qui correspond donc à l'énergie que coûte le fait d'exposer des molécules d'une phase condensée à une phase moins condensée ou deux phases condensées, typiquement entre deux liquides. Il y a aussi deux liquides non miscibles, il y a aussi une tension de surface. On a surtout parlé d'interface liquide-air, donc avec cette jolie image-là. On voit très bien les effets de tension de surface ici. On voit que la surface est déformée et plutôt vers le bas. C'est une déformation hydrophobe. Et c'est la force de tension de surface qui permet à ce petit animal de marcher sur l'eau. On avait essayé d'illustrer ça avec des objets qui flottent. Et on avait fait une expérience, alors je vais peut-être juste vous remontrer. Ouais, décidément, j'y arrive pas. Je vais faire ça comme ça, hein, ça sera plus facile. Donc ça, c'est l'expérience. On vous montrera le petit film, on les mettra aussi en ligne, parce que les petits films, on les a fait avec des professionnels de l'image. Donc les films sont très beaux. On a du mal à reproduire exactement la même chose ici, mais c'est quand même un peu plus joli que l'autre jour. Donc on va peut-être d'abord essayer de vous montrer la manip. Donc si je bascule, on va continuer à jongler avec ça. Donc Pierre a un joli film. T'essayes de la faire toute seule, et puis sinon je viens t'aider. On voit des franges là. Il est en train de se drainer, c'est-à-dire s'affiner. Donc là, il doit faire 200-300 nanomètres d'épaisseur. Maintenant, on met un fil qui a aussi un film de savon à l'intérieur. T'arrives à le percer tout seul ? Oh, trop fort. Voilà. Et donc, ouais. Je vais venir t'aider quand même parce que ça permet de le faire plus vite à deux. Parce que... Oh, t'es trop bon. C'est vraiment con, hein, Thierry. Alors, donc j'insère la spire. Donc là, il y a un film à l'intérieur et à l'extérieur, et la spire est un peu déformée. J'essaie de crever le film à l'intérieur. Voilà. Donc là, le film extérieur tire sur la spire et elle prend une forme assez ronde. On peut même essayer de mélanger un peu les franges, là. Ça n'a pas tenu. Mais je vais le refaire maintenant sans la spire. C'est joli quand on crée un petit peu de turbulence. Je peux reprendre. Merci Thierry. De rien, Thierry. Alors, on va attendre que ça se draine un petit peu, que les franges apparaissent. Là, il y a pas mal de désordre. On a mis un petit humidificateur aussi, parce que quand l'atmosphère est très sèche, les films sont instables. Et là, il commence à y avoir des franges. Je vais essayer de souffler pour... Tu peux lever un petit peu, peut-être. Voilà. Donc, on induit des écoulements très turbulents dans un film très confiné. C'est de la physique magnifique, très compliquée. Pardon, magnifique et très compliquée. Je vais essayer de le refaire, parce que là, c'est vraiment joli. Alors le film il est de plus en plus fin, donc il est de moins en moins stable, mais on voit que ça se restabilise assez vite là, avec des franges assez régulières en bas, et en haut il est en train de devenir très fin. Plus il est transparent, là, plus il est fin, paradoxalement c'est ce qu'on appelle un film noir, parce que il est plus transparent, en réflexion il est noir. Voilà, alors je vais rebasculer. C'est ça. Je vois plus le truc. Ah oui, pardon. Voilà. Et si on lance le film, bon, c'est la même chose, hein, mais dans des conditions d'éclairage meilleures. Et tu le lances. Donc il y a une des mains qui doit être à moi. Et là, on a vraiment des écoulements très turbulents autour. Donc, les différentes couleurs, c'est des épaisseurs différentes en fait, dans le film. Voilà. Et là, c'est un zoom. Alors, c'est des films qu'on fait avec un collègue qui est un artiste qui fait des spectacles avec des bulles de savon et avec des films de savon. Donc, lui, il a beaucoup travaillé pour essayer avec une de nos collègues pour essayer d'optimiser les préparations pour avoir des films qui tiennent très longtemps. Et dans des conditions pas toujours celles du laboratoire. Voilà. Alors, peut-être juste pour vous rappeler, puis après, je passerai la parole à Pierre. Donc, tous ces films-là sont stabilisés par ce qu'on appelle des surfactants, des tensioactifs. Donc, des molécules. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup autour de vous, qui ont toujours la propriété d'avoir une partie qui n'aime pas être dans l'eau, qui est souvent représentée par une longue chaîne hydrophobe, mais parfois la partie hydrophile peut aussi être une longue chaîne, ça dépend. Là, il y a par exemple des polymères amphiphiles. Donc le bleu aime l'eau, le rouge aime pas l'eau. Ils peuvent avoir des structures très compliquées. Donc les classiques hein, qu'on trouve dans les produits vaisselle, dans les lessives, des tensioactifs anioniques, c'est ceux qu'on utilise ici, qui stabilisent beaucoup les films. Des tensioactifs non ioniques, qui stabilisent moins les films, mais ils sont assez détergents. Il y a les cationiques aussi, et puis donc les polymères amphiphiles qu'on retrouve dans des mousses du quotidien. Moi, je vais tenir le micro peut-être un peu plus près. Et après, à nouveau, ça marche pas. Il y a aussi beaucoup de ces molécules dans le vivant. Alors, on a cité quelques exemples ici. Un exemple que nous, on connaît bien, parce que c'est notre domaine de recherche à tous les deux, c'est ce qu'on appelle les phospholipides. Et c'est un des composants majeurs du vivant. C'est essentiellement, donc, ces molécules-là, alors, elles ont la propriété d'avoir une tête qui aime l'eau et deux chaînes qui n'aiment pas l'eau. Et du coup, elles ont tendance à s'auto-assembler pour former comme ça des sortes de feuillets, des doubles bicouches, ce qu'on appelle des doubles bicouches. Alors, cette fois-ci, c'est le contraire d'un film de savon. C'est pas un film d'eau dans l'air, c'est un film d'huile dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau au-dessus, de l'eau en dessous, et puis, cette paroi-là qui est très fine. Et pratiquement toute la compartimentalisation, c'est toujours horrible à dire ce mot, dans le vivant est faite par des membranes comme ça. Donc, la paroi de la membrane cellulaire, c'est une membrane phospholipidique. À l'intérieur de la membrane cellulaire, la paroi du noyau, la membrane nucléique, c'est une membrane phospholipidique. Et puis tous les organelles, toutes les petites usines qu'il y a dans la cellule, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, tous ces objets-là, sont en fait séparés. On sépare toujours un intérieur d'un extérieur et c'est toujours fait par des membranes phospholipidiques. Donc nous, on travaille beaucoup sur ce genre de système. Ça a été pas mal mis en avant il y a quelques mois ou quelques années, enfin il y a un ou deux ans, parce que c'est un objet assez essentiel, même s'il est juste là pour transporter le principe actif en quelque sorte, mais dans les vaccins ARN, c'est pour arriver à amener l'ARN dans la cellule, on l'emmène dans un petit cargo comme ça qui est fait de phospholipides, donc c'est intéressant. Puis après, les protéines peuvent être amphiphiles, typiquement dans le blanc d'œuf, dans le lait, il y a des protéines amphiphiles qui ont une partie qui aime l'eau, une partie qui n'aime pas l'eau. C'est pour ça qu'on arrive à faire monter des blancs en neige, par exemple. Ou c'est pour ça que le lait mousse, typiquement. À nouveau, c'est des textures qui sont extrêmement importantes dans le quotidien, en particulier en agroalimentaire ou simplement en cuisine, si on veut parler plus poliment. Voilà, je vais peut-être te laisser la parole sur la suite, du coup. La suite c'est une manip, donc c'est pareil, cette fois-ci on a pris nos précautions, à chaque fois on a prévu un film au cas où la manip marche pas bien et on vous montrera quand même le film. Donc l'objectif de la séance aujourd'hui, ça va être de voir quelles sont les formes qu'adoptent ces films de savon. Alors il y en a une forme qui est bien connue, ce sera celle dont on parlera finalement le moins, on en parlera un petit peu à la fin, c'est la bulle. Mais il y a des formes qui ont été beaucoup étudiées, qui sont encore beaucoup étudiées par les mathématiciens, ce qu'on appelle des surfaces minimales. Donc aujourd'hui, on va essentiellement vous parler de ça. Alors on va essayer de vous montrer un premier exemple.
On va essayer de tendre un film sur un cadre, et là le cadre c'est une corde.
Hop, mince.
Non, mais... On a une corde un peu longue et un récipient un peu. Une corde un peu longue et un récipient un peu petit. Puis moi j'ai les doigts secs aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un film sur le cadre. On n'a plus de film sur le cadre. Je vais mouiller un peu les doigts.
Ça va.
Il y en a un. Il y en a assez stable. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors maintenant, on va essayer d'avoir des formes qui nous permettent de le voir. Voilà. On peut baisser un petit peu. Voilà, donc le film, il adopte une certaine forme, mais quand même pas forcément celle auquel on penserait spontanément. C'est-à-dire, il fait pas deux plans, par exemple. Et puis, chaque fois qu'on déforme là, les points, chaque fois qu'on change le cadre, il est en train de, à chaque fois, il adopte sa forme. Voilà, donc l'idée, on peut peut-être montrer le film maintenant, mais tu fais une grande bulle, si ça marche. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de discuter un petit peu quelles sont les formes qu'adoptent ces films de savon quand on les appuie sur des cadres comme ça. C'est un problème qui, historiquement, s'appelle le problème de Plateau, d'après Joseph Plateau. Et donc, pour ça, on va devoir introduire quelques petits objets mathématiques assez intuitifs, qui peuvent être assez compliqués à définir proprement en maths, mais qui sont assez intuitifs. Et pour ça, je passe la parole à Pierre.
Voilà, donc, quand on a une surface courbe, en fait, mais régulière, en fait, en tout point de la surface, on peut définir ce qu'on appelle le plan tangent. Donc, localement, même si la surface a une forme quelconque, vous m'entendez là ? Oui. Donc, on a quand même un endroit, un plan tangent, et après, ce qui nous intéresse, nous, c'est justement la déviation par rapport à la planéité. Et donc, ça, c'est défini par le fait que, donc, vous voyez cette espèce de bosse au niveau du point ici central. J'ai pas la. Avec le pointeur, ça ira mieux. Donc ici, vous voyez qu'il y a une espèce de déformation qui ressemble un peu à une montagne. Et donc, si on coupe dans la direction X1, vous voyez que vous avez une forme comme ça qui va donc ressembler un petit peu à quelque chose avec un sommet. Et donc, on définit autour de ce point une courbure, donc en fait un cercle qui ajuste au mieux la forme proche de la surface dans la direction du vecteur x1. Et en fait, on peut faire la même chose dans la direction du vecteur x2 et on va avoir une autre forme avec un autre cercle qui sera la meilleure approximation de la courbe dans l'espace suivant la direction de x2. Et donc, pour les surfaces plongées dans un espace ordinaire à trois dimensions, on peut montrer que en fait, si on fait ça dans n'importe quelle direction entre X1 et X2, on a en fait deux directions privilégiées qui vont être un minimum et un maximum de ces valeurs de rayon du cercle le plus proche. Et c'est ce qu'on appelle les rayons de courbure principaux, R1 et R2. Et donc, ils vont toujours être orthogonaux sur cette surface. Et donc, avec ces deux rayons de courbure, on peut définir ce qu'on appelle la courbure moyenne, qui va être simplement la moyenne des inverses de ces rayons. Et on va appeler ça la courbure moyenne H. On peut aussi définir une autre valeur, qui est la courbure gaussienne, qui va être simplement l'inverse du produit des deux rayons. Et donc, on peut avoir des surfaces... Alors là, la qualité n'est pas extraordinaire à l'affichage. Donc, on peut avoir des cas où on a alors des courbures qui peuvent être négatives, nulles ou positives. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'effectivement, le rayon, en fait, on lui donne également un signe suivant que ça correspond plutôt à un cercle vers le haut ou vers le bas. Et donc, on rajoute aussi une notion de signe à cette courbure. Et du coup, les valeurs de R1 et R2 peuvent être positives ou négatives, ce qui explique aussi que le produit, donc la courbure gaussienne K, peut avoir aussi des valeurs positives ou négatives. Et donc, on a des formes caractéristiques qui sont la selle de cheval, donc, qui est la forme qu'on a essayé de vous montrer auparavant, là, quand on faisait vraiment des points hauts, des alternances de points hauts et de points bas. On a typiquement, dans un sens, une courbure qui va vers le bas, alors que dans l'autre sens, la courbure, elle est vers le haut. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle aussi un col pour les gens qui marchent à la montagne, quoi. On essaye de passer au point le plus bas entre deux montagnes. Et donc, on a ce genre de forme typique dans ce cas-là. Alors, évidemment, on peut avoir des cas où où les courbures sont en moyenne nulles. Et donc, ça, c'est le cas typique, justement, des surfaces minimales. Et donc, elles vont être définies par le fait que elles sont, justement, à tout endroit de la surface, elles sont caractérisées par le fait que cette courbure moyenne H va être nulle. Et c'est ça qui va permettre, en fait, d'avoir vraiment la surface totale minimale compte tenu des contraintes qu'on impose par la forme du fil qu'on déforme facilement ici avec notre ficelle qu'on peut bouger comme on veut. Alors, je passe pas en revue toutes les possibilités, mais voilà. Donc, le point important, effectivement, c'est de dire que ici, dans le cas de notre film, l'énergie, elle est vraiment proportionnelle à la surface totale du film. Et donc, comme c'est un film fin d'eau et qu'il y a deux interfaces air liquide, en fait, on va avoir deux fois la tension de surface multipliée par l'air de la surface. Et donc, pour minimiser l'énergie, ben, il suffira de minimiser la surface puisque la tension de surface elle-même, en tout cas pour nos solutions, elle va être constante pour que le film soit bien stable. Et du coup, on a cette notion de surface minimale parce que vraiment, on essaye de trouver la forme qui s'appuie sur les bords qu'on impose et qui a l'air la plus petite. Et il y a des théorèmes mathématiques qui permettent de montrer que une surface minimale est caractérisée par le fait que la courbure moyenne partout sur la surface va avoir cette courbure moyenne va être constante et égale à zéro. Et donc, en fait, un film de savon, c'est un objet mathématique quasiment de courbure moyenne nulle.
Juste, ce qui est important, c'est que on fait le lien entre une propriété qui est globale, c'est-à-dire la surface est minimale. Pour pouvoir vérifier que la surface est minimale, il faudrait pouvoir calculer la surface déjà de l'air de la surface. Et donc, c'est une propriété globale de l'objet. Et puis, il faudrait pouvoir le déformer et tester toutes les surfaces autour pour voir que c'est bien la plus basse. À une propriété locale, le fait que la courbure moyenne en chaque point doit être nulle, c'est vraiment une propriété locale. On va vous montrer après comment on peut essayer de le mesurer. C'est vraiment l'idée de ce qu'on voulait essayer de faire aujourd'hui. C'est comment on peut essayer de tester ça. C'est plus facile de tester une propriété locale qu'une propriété globale en général.
Donc ici, quelques exemples macroscopiques de ce genre de surface minimale. Donc en architecture, ça a servi pour plusieurs stades et plusieurs grandes réalisations. Je crois qu'il y en avait aussi en Chine, non, il me semble aussi.
En Allemagne aussi.
Oui, ouais, il y a Munich, plusieurs exemples comme ça où effectivement ce genre de surface sont aussi des surfaces minimales avec toujours des contraintes qui sont liées au bord. Et donc, l'exemple typique pour les films de savon, c'est la caténoïde. Donc la caténoïde, c'est la surface minimale qui est portée par deux cercles. Donc ici, c'est des morceaux de fil de fer qui vont être de même rayon et qui vont avoir un axe commun. Et donc les deux cercles vont être perpendiculaires à cet axe et donc vont être dans des plans parallèles. Et donc, dans ce cas-là, on connaît la forme analytique qui correspond à la surface minimale dans l'expression des coordonnées cylindriques. Donc on définit pour un système qui ici va avoir un axe de symétrie, on a une solution qui va être donc qui va avoir une symétrie par rapport à cet axe-là, qui va aussi avoir une symétrie par rapport au plan milieu. Et du coup, on va pouvoir définir la distance à l'axe en fonction de la hauteur Z le long de la courbe. Et donc, on peut vérifier que cette formule a bien toutes les caractéristiques, c'est-à-dire que, évidemment, elle est choisie de façon à reposer sur le cercle qui correspond aux deux extrémités. Et on peut vérifier que c'est bien une surface minimale. Donc Thierry va essayer de nous faire une démonstration en direct. Alors il faut.
Vous voyez, vous n'êtes pas trop loin. Alors, là, typiquement, je tends une surface.
Plutôt d'au-dessus, non ? Une surface
minimale sur deux cercles.
Ah non, c'est l'autre. Voilà.
Plus j'éloigne les anneaux, là.
T'es encore un peu. Ah oui, tu peux dézoomer. Ah, voilà. Voilà, là, t'es bien.
J'augmente la distance entre les anneaux.
Hop.
Donc il reste en fait deux surfaces minimales qui sont portées par chacun des deux cercles ici, mais qui du coup sont plus connectés entre eux. Donc ça c'est une solution effectivement de deux disques, c'est une solution de surface minimale, mais qui respecte plus la continuité entre les deux morceaux qu'on a imposés au départ. Justement, en cassant le fil de connexion entre les deux, tu y arrives ? Mais je crois qu'il faut mouiller les deux, non ?
Ouais, j'ai...
Oui. Alors il y a énormément de liquide en fait qui s'accumule sur les bords. Alors ici en particulier dans notre setup, on a une espèce de gaz qui va être un gros réservoir de liquide. Dans le cas où c'est des surfaces métalliques, il y a quand même sur les bords généralement beaucoup plus de liquide que dans le film. Ce qu'il y a, c'est que le film draine, et c'est ce qu'on voit quand on voit les variations de couleurs, d'interférences qui évoluent peu à peu. Donc le film, il a tendance effectivement à s'amincir progressivement, mais l'eau, en fait, elle s'entasse sur les rebords, quoi. Donc c'est pas que ça s'évapore. Enfin, on peut avoir des cas où c'est l'évaporation qui donne vraiment le drainage, mais le plus souvent, c'est par les bords que s'évacue le liquide.
Ouais, c'est beaucoup la gravité qui fait la. Et là, la caténoïde qu'on essaie de faire avec ces deux anneaux-là, elle commence déjà à être un petit peu grosse pour être déformée par la gravité. Et bien sûr, dès que la gravité commence à jouer un rôle, il n'y a pas que l'énergie de tension de surface à minimiser, et c'est plus une surface minimale. Donc, quand on essaie d'étudier ces objets d'un point de vue, et qu'on est intéressé par les surfaces minimales, il faut essayer de le faire avec des échelles pas trop grandes pour pas avoir que la gravité joue pas de rôle. Typiquement, là, ce qu'on va essayer de faire avec Pierre sur les gobelets. Donc, juste pour résumer, cette caténoïde, c'est la seule surface, enfin, c'est une des seules surfaces minimales avec une solution dite analytique, c'est-à-dire où on connaît vraiment la forme, on sait calculer la forme. Alors, on l'a donnée, on va pas peut-être insister trop là-dessus, mais pour ceux qui aiment bien les maths, c'est ce qu'on appelle une chaînette de révolution aussi. Cette équation là, c'est ce qu'on appelle l'équation de la chaînette. C'est la forme qu'adopterait une chaîne pesante sous l'effet de la gravité. Là, il se trouve qu'on retrouve cette équation là et que ça revient à prendre une chaînette qui s'appuie sur les bords des disques là, enfin des anneaux, et de la faire tourner autour de l'axe de révolution. Donc c'est une chaînette de révolution. Alors là, ça c'est une image qu'on a fait au labo. Ça c'est une vraie image de labo. C'est sur ce genre nous on a passé pas mal de temps à travailler sur ces systèmes. Et quand on veut essayer de faire des mesures précises, voilà le type d'image un petit peu qu'on essaye de faire. Et on va essayer de vous montrer ce qu'on peut faire chez soi et éventuellement ce qu'on peut essayer de mesurer. Alors
Juste vous montrer ce que j'ai commencé à essayer de faire ici. Donc là, j'ai un petit boy qui va me permettre de changer la distance entre les deux gobelets. Et donc
c'est deux gobelets percés. C'est important. Il faut que l'air puisse circuler librement à l'intérieur des gobelets. On vous expliquera après un peu plus pourquoi.
Et donc là, j'augmente progressivement la distance entre les gobelets et vous voyez apparaître, bon, c'est plus joli en direct que par la caméra.
Brouillard. Le temps se couvre.
Du coup, je vais repasser sur la...
Mais donc, ce que vous commencez à voir apparaître, c'est que à partir d'une certaine distance entre les deux disques, la caténoïde disparaît. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est... Parce que parfois, on reste à une distance fixée, et puis le film se draine, il y a de l'évaporation, il y a des perturbations, il y a un courant d'air, et le film casse. Mais là, c'est pas ce qui se passe. C'est ce qu'on veut essayer de décrire un petit peu aujourd'hui. C'est finalement, donc ça, c'est la solution mathématique de la caténoïde. Et dans cette solution-là, il y a un paramètre petit a que j'ai introduit qui correspond à ce qu'on appelle le rayon du col, c'est-à-dire le rayon le plus étroit de la caténoïde, c'est-à-dire celle au plan qui est au milieu là. Et lui, on le connaît pas a priori, donc il faut pouvoir le calculer. Nous, ce qu'on connaît expérimentalement, c'est toujours important en physique de se demander qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on est capable de contrôler expérimentalement et qu'est-ce qui s'adapte et qu'on va mesurer. Donc ici, ce qu'on a imposé, c'est le rayon des cadres, typiquement là le rayon des gobelets, donc c'est 2 cm, quelque chose comme ça. On impose la distance entre les deux cadres, ça c'est en jouant sur la hauteur en tirant sur la ficelle là, ou en écartant les mains. Donc ces deux quantités, c'est des quantités expérimentales qui sont imposées. Et le rayon ici va s'adapter. Et ce qui va le fixer mathématiquement, c'est cette équation qui vous dit que votre forme de caténoïde, elle doit venir sur les bords ici. Ça c'est une condition qu'on appelle une condition limite. Mon film, il doit venir s'appuyer sur les bords. Donc la question, c'est, il faut que je résolve pour un R et un H donné, il faut que je résolve cette équation pour savoir si jamais il existe une caténoïde et pour calculer son rayon de col. Alors c'est une équation qui est assez compliquée, elle est non linéaire, il n'y a pas de ce qu'on appelle de solution analytique, mais on peut essayer de la résoudre. Et quand on essaie de la résoudre, ce qu'on constate, c'est que d'abord, si H sur R, donc si la hauteur, la distance entre les deux cadres est trop grande, il n'y a pas de solution. Donc on ne doit pas trouver de surface minimale. Alors en fait, si la seule solution, c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle la surface de Goldschmidt, c'est-à-dire ces deux disques déconnectés. D'accord ? Et les disques, c'est bien des surfaces minimales parce que c'est bien des surfaces de courbure nulle. Que là, c'est des plans, en fait, des plans qui s'appuient sur un cercle. Et donc, les deux courbures sont clairement nulles. Donc, c'est une surface minimale. La courbure moyenne est nulle. Et puis, quand H est suffisamment petit, et en gros, quand le rapport H sur R est plus petit qu'un chiffre magique, qui est de l'ordre de 1,33, si je me souviens bien, on peut trouver une solution. Non seulement on peut trouver une solution, mais en fait, on en trouve deux. Et il y a ce qu'on appelle... Alors, je sais jamais... quelle est la dénomination? Je suis même pas sûr qu'il y en ait une vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une caténoïde typiquement ici, là, qui a un grand rayon de col. Alors, je sais pas si c'est celle qu'on appelle la grande ou la petite. Mais, parce qu'elle a un grand rayon de col, mais c'est celle qui a la plus petite surface, en fait. Et puis, il y a celle-ci, là-haut, qui a un petit rayon de col. Donc, soit il y a zéro solution, soit il y en a deux. Et quand on calcule les surfaces de ces deux solutions, c'est-à-dire quand on calcule leur énergie, on se rend compte qu'il y en a une qui a, celle-ci, elle a l'énergie la plus basse. Et celle-ci, donc c'est une surface minimale, vraiment au sens minimal. Et l'autre, c'est plutôt ce qu'on devrait appeler une surface maximale. Et ça, en mathématiques, c'est assez classique. Quand on cherche ce qu'on appelle un minimum, en général, on trouve aussi des maximums. Et un minimum et un maximum, quand on regarde ce qui se passe juste autour, c'est très similaire. Il faut aller voir un petit peu plus loin pour savoir finalement si on est au sommet ou si on est dans un creux.
Là, l'étoile bleue correspond au cas... d'un cylindre. Donc c'est l'air, si on prenait le film qui a une forme cylindrique entre les deux anneaux.
Ouais.
Là, c'est plus une surface minimale, mais c'est une surface qui est intermédiaire entre les deux solutions.
Donc si on résume les propriétés, et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous montrer comment on pourrait Alors, on va essayer de vous montrer comment on peut essayer de le faire chez soi, puisque c'est l'enjeu, c'est les conditions aux limites posées par Thierry. Et puis, on vous montrera aussi quelques résultats de ce qu'on arrive à faire en laboratoire. Il n'y a pas besoin de conditions exceptionnelles non plus, mais c'est plus compliqué aussi. C'est à la fois très simple et en même temps plus compliqué que ça en a l'air de faire des choses très propres, comme souvent en physique et en sciences. Mais donc, si on résume, il y a soit zéro caténoïde si ce chiffre, si cette hauteur est trop grande, et on peut essayer de vérifier que ce chiffre magique prédit par les mathématiques est correct. Ensuite, il devrait y avoir deux solutions. Alors, puisqu'il y en a une qui est une surface maximale, ça veut dire qu'elle va correspondre à un maximum d'énergie et normalement on ne devrait pas pouvoir l'observer. Elle va être instable. Mais on devrait pouvoir observer celle qui est minimale. Et a priori, on peut essayer de calculer le rayon du col, par exemple. Et puis, donc si je vais changer la valeur de H, faire une photo et essayer de mesurer le rayon du col et regarder si ça met, il est bien prédit par la théorie. Donc ça va être probablement la chose la plus facile à faire. La deuxième, c'est d'essayer de regarder si jamais cette surface minimale là, elle arrête d'exister bien à la valeur prédite par la théorie. Donc c'est ce qu'on appelle la hauteur critique. Et puis pour la hauteur critique, il y aura un rayon critique associé. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce que en fait vous êtes en train de chercher quand quelque chose n'existe plus. Donc vous êtes toujours obligé de faire un pas en avant pour savoir si vous êtes au bord du gouffre ou pas. Et donc il faut essayer de s'en rapprocher et faire un peu ce qu'on appelle en maths une dichotomie. Donc si on veut le mesurer précisément, il faut faire des tout petits pas. Et à chaque fois, il faut être sûr qu'on atteint bien l'équilibre, que tout est bien stabilisé et d'essayer de voir si jamais ça marche. Mais ça se fait. J'arrive pas à m'y faire que ça marche pas. Alors on pourrait se dire aussi, est-ce qu'on peut vérifier que c'est une surface minimale? Alors ça c'est compliqué, parce que il faudrait à partir de l'expérience arriver à mesurer la surface pour un H et un R donné, et mesurer une surface c'est pas très facile, surtout sur des films comme ça à mou. Alors on pourrait imaginer arriver à la calculer à partir des images, mais c'est pas très simple. Et l'autre chose, c'est que pour être sûr que c'est une surface minimale, il faudrait pouvoir tester plein d'autres valeurs, c'est-à-dire déformer cette surface, l'emmener dans des situations qui sont pas à l'équilibre et s'assurer que chaque fois on trouve quelque chose de plus élevé. Donc c'est pas simple. Et c'est ce que j'insistais un petit peu tout à l'heure là-dessus. Ce qui est plus simple, en fait, puisque les maths nous démontrent que si la surface est minimale, la courbure moyenne doit être nulle partout. Ça, c'est plus facile à faire. C'est pas complètement trivial non plus, mais c'est quand même plus simple, c'est d'essayer de vérifier que c'est bien des surfaces de courbure nulle. Alors, le vérifier en chaque point, c'est un peu fastidieux, mais on va vous montrer qu'au moins, il y a un point, dans le plan médian, c'est assez facile à faire, et puis qu'on peut le tester ailleurs. Voilà, donc c'est un petit peu le programme de la suite de la séance. Là, c'est qu'on va essayer de mesurer ces quantités sur ces surfaces minimales. Et puis ensuite, on vous en montrera une avec dans un cas où là, on ne sait pas faire de choses exactes en mathématiques et qu'on a pas mal étudié avec Pierre. C'est ce qui se passe quand le cadre est quand les deux cadres sont des ellipses. Et puis on terminera par ce qui se passe quand il n'y a pas de trou dans les gobelets en fait. Donc du coup, on rebascule sur les manips. Ouais. Alors si, mais elle est disconnectée. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on appellerait disconnecté. Les mathématiciens, donc, ils disent, voilà, ce qu'ils appellent la surface de Goldschmidt, une surface qui est, en gros, deux disques plans, c'est bien des surfaces minimales parce que c'est des surfaces de courbure nulle. Pardon. Et puis une manière de rendre cette surface connectée, c'est de la connecter par un fil infiniment fin, qui n'est plus vraiment une surface, et qui du coup n'a pas de courbure, et qui du coup permet d'avoir une surface connectée de courbure nulle, mais c'est un petit peu un artifice mathématique. Oui, mais elle est maximale en fait à ce moment-là. Elle devient. Alors, si jamais on rebasculait,
disons que si, quand les deux surfaces sont très proches, la surface des deux disques va être plus grande que quelque chose qui est très proche du cylindre, puisque à très petite hauteur, cette surface-là va être bien plus petite.
Vous l'avez là en fait. C'est le trait en pointillé noir. C'est la valeur, le trait en pointillé noir horizontal. C'est la valeur de l'énergie de cette surface que les mathématiciens appellent la surface de Goldschmidt. Et donc, vous voyez qu'au début, elle est plus grande que la courbe rouge, qui est la caténoïde. Elle est bien au-dessus. Et puis, il y a un point là où elle coupe. En effet, alors, ce qu'il y a de rigolo, si vous regardez bien, c'est qu'elle coupe avant de rencontrer la valeur critique. Donc, ce qui se passe pendant ce petit domaine là, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais on peut, c'est que il y a deux surfaces minimales stable, la caténoïde qui est en rouge, la surface de Goldschmidt qui est celle-ci, là, qui est les deux disques. La surface de Goldschmidt est plus stable, mais si on ne perturbe pas le film, il ne s'en rend pas compte. Et donc, il peut rester piégé dans l'état, c'est ce qu'on appelle en physique un état métastable. C'est-à-dire que si je m'écarte un tout petit peu de mon état d'équilibre, j'ai l'impression, je suis dans un minimum, donc j'ai l'impression que je suis dans l'état de plus basse énergie. Mais il y a, si je m'écarte un peu plus, je me rends compte qu'en franchissant une barrière d'énergie, je peux tomber dans une vallée plus profonde. En gros, c'est ça. Mais sinon, avant, elle est vraiment, quand les H deviennent petits, elle se rapproche de la petite caténoïde. Si vous regardez bien, en fait, elle tend vers la surface de Goldschmidt. C'est-à-dire, le rayon devient très, très fin. Et l'autre tend vers le cylindre. Où on bascule sur les manips.
Donc, à nouveau ici, j'ai les deux gobelets et j'ai donc ici une distance. Ah, j'ai oublié de sortir. Donc, si on veut vraiment faire une mesure, on peut évaluer la distance entre les deux. Ah, vous ne voyez pas, pardon. Il est possible de mesurer. Alors ici, avec le setup, c'est un petit peu compliqué, évidemment. Et donc, ça y est, il est parti. Ouais. Non, il y a un petit fil. Okay. Ça, c'est le stabilisant. Là, il a un effet un peu.
Ce qu'on voit peut-être pas là, mais les gobelets sont percés.
Là, il y a des gros. On a rajouté les gros trous parce que les petits suffisaient pas, parce que les petits ils se bougent très facilement avec le liquide, le savon. Et du coup, c'est ce qu'on verra plus tard, mais si le gobelet est fermé, il réagit très différemment parce qu'il y a des contraintes de volume qui commencent à apparaître aussi et qu'on veut pas ici. Et donc là, je peux maintenant changer la distance entre mes deux.
Donc si vous voulez jouer avec ça chez vous, ce que vous pouvez faire à chaque fois, là, c'est prendre une photo, par exemple, et puis dessus, mesurer. Alors on va le faire après sur d'autres photos qu'on a prises, mais pas exactement sur ce système, mais mesurer le rayon de colle, à quelle hauteur ça lâche. Donc là, ça tient encore. Ce qu'on va pouvoir faire facilement, c'est peut-être mesurer la hauteur critique parce que quand ça va lâcher.
Bon, comme ça tremble un petit peu, ça va péter un petit peu avant, je pense.
Hop. Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est pas que le rayon de colle tend progressivement vers zéro. Il y a vraiment toute une gamme de valeurs qui est interdite. C'est-à-dire qu'il y a un plus petit rayon de colle accessible, et puis en dessous, on n'a plus de caténoïde. Je sais pas, là, si tu le mesures, ça te donne quoi?
Alors, je mesure.
C'est vraiment de la mesure au doigt mouillé. Enfin, peut-être même au pied mouillé d'ailleurs, parce qu'on en a vraiment partout.
Il y a 4,1 cm pour un diamètre.
Donc on a haché qui vaut 4,1 cm pour 2R qui vaut
6,3, je dirais.
6,3 ?
Ouais.
Donc le rapport H sur R miracle, H sur R, il vaut 4,1 sur 3,15. Je ne sais pas si quelqu'un a une calculatrice ou peut-être un téléphone qui fait calculatrice. Moi je peux le faire sinon sur. Mais en tout cas, on est clairement, on est au-dessus de 1 et on ne doit pas être très loin de. De la. Ouais, je vous avais dit 1,33. On est pas mal. Parce qu'honnêtement, quand on veut vraiment le mesurer précisément, on va vous montrer des points après qu'on arrive à avoir en labo. C'est compliqué parce que vraiment, c'est très très rapide l'instabilité. C'est-à-dire que c'est plus on veut le mesurer précisément, plus il faut s'en approcher près. Mais on est de plus en plus sensible à la moindre perturbation. Alors, si on revient sur la présentation. Ah oui, il faut. C'est vrai qu'il faut. C'est dans quoi ? C'est dans paramètres d'affichage.
Là, c'est bon.
Que dupliquer.
Ah non, c'est pas bon. Voilà.
Ouais, c'était déformé. Ouais. Donc, alors ça, c'est une image. Typique qu'on peut avoir en labo, c'est des petits cadres, c'est plus petit, hein, c'est-à-dire, vous voyez là, on est à des échelles un peu plus petites, ça fait 3 cm de diamètre, alors que ici ça fait 6, quoi, c'est deux fois plus grand. C'est des petits cadres qu'on a imprimés avec une imprimante 3D, des cadres en polymère. Et là, donc c'est typiquement avec le même genre de solution, donc on a une belle caténoïde, elle est bien symétrique, on s'arrange pour bien aligner les choses. Et donc là-dessus. Si on mesure le rayon du col, là, typiquement, donc dans cette situation-là, on a un rapport A sur R qui est 0,57 et un rapport H sur R qui est 1,26. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin de 1,33, mais on est quand même un petit peu en dessous. Et donc si on essaye de comparer ça à la théorie, donc ça c'est la courbe théorique. Alors, peut-être la discuter un tout petit peu avant. Donc ici, c'est H sur R. On n'a pas insisté sur ça, mais en fait, on peut tout, en physique, on dit normaliser par le rayon le rayon des cercles, là, c'est-à-dire le rayon des gobelets. C'est-à-dire qu'on pourrait, quelle que soit la taille avec laquelle on fait la manip, ça doit donner la même chose si on divise tout par R. Sauf, bien sûr, quand les rayons deviennent trop grands et que la gravité commence à jouer un rôle. Là, on est dans des gammes suffisantes. Donc là, c'est la hauteur, avec la valeur magique ici. Au-dessus, il n'y aurait pas de solution. Et puis là, c'est le rayon du col, divisé par R, normalisé toujours. Donc on voit bien que on a une première branche, celle-ci, c'est la branche qui est pas stable, c'est la grande caténoïde, enfin celle qui a le petit rayon de col, et ça c'est celle qui a le grand rayon de col, c'est celle qui est stable. Le rayon part de 1, parce que ça veut dire que quand les deux disques sont très très proches, ben la grande caténoïde c'est presque un cylindre. Et le rayon de la petite, il part de zéro parce qu'au contraire, elle, c'est pratiquement cette surface-là. C'est la surface de Goldschmidt. Et donc, on devrait avoir des points, si la théorie marche bien, qui viennent se coller là-dessus. Alors, si jamais j'ajoute le point qu'on vient de celui d'avant, pas celui que Pierre a mesuré en direct, on pourrait d'ailleurs l'ajouter, mais...
Oui, enfin, il faudrait arriver à mesurer aussi.
Il faudrait, ouais. Ouais, ça, c'est plus dur. Ouais. Sans faire de photos, c'est dur de mesurer. Ouais. Voilà, il est là. Alors, on pourrait se dire, c'est bon, pas bon, enfin, c'est pas très loin, mais on était très près du col. Hein. Vous voyez qu'on voit là, vers le col, que le rayon, il varie très très vite quand on change un petit peu H. Mais comme toujours en physique, en science en général, mais en physique en particulier, savoir si la comparaison entre une expérience et une théorie est bonne, ça a du sens que si on donne les barres d'erreur sur notre mesure expérimentale. Et là, si on rajoute les barres d'erreur sur ce système-là, on se rend compte que ben, ce n'est pas déraisonnable. Alors elles sont grandes hein, par rapport à ce qu'on peut faire en labo, on va vous montrer juste après, mais c'est-à-dire que aux incertitudes expérimentales près, on est en accord avec la théorie. Donc ça ressemble à une caténoïde. Sachant qu'on ne prend pas en compte ici des incertitudes qui, par exemple, pourraient dire que les gobelets, est-ce qu'ils sont vraiment bien circulaires, est-ce qu'ils sont bien parallèles, etc. Donc ça, c'est tous des paramètres qu'il faut essayer de bien contrôler. Et si on fait ça vraiment proprement en laboratoire, voilà les points qu'on arrive à obtenir. Donc là, pour différentes valeurs de H, on a mesuré le rayon du col, et puis on a tracé H sur R en fonction de A sur R, et on a essayé d'aller au plus près possible de la valeur critique ici. Donc ça marche pas mal, hein. C'est pas déraisonnable. Ici, ça s'écarte un petit peu, mais ici, ça devient très dur parce que les deux disques sont très très proches l'un de l'autre et que la surface, ben, on la voit pas beaucoup. Et puis ici, ce qui devient plus dur, c'est que ben, c'est dur de se rapprocher du point critique, et puis surtout, le rayon varie beaucoup. Donc on est sensible à des petites fluctuations. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. On a fait beaucoup travailler des étudiants de licence sur ça, parce qu'on trouve que c'est vraiment un joli sujet, parce qu'il y a plein de petits problèmes expérimentaux qui se posent derrière pour pouvoir faire des choses proprement. Mais pour faire des choses assez qualitatives ou semi-qualitatives ou semi-quantitatives, c'est avec deux gobelets, du produit vaisselle et un appareil photo, on peut arriver à faire des choses. Et un double décimètre. C'est important. Alors, la deuxième chose, je te passe la parole, c'est la courbure.
Donc, quand on a cette forme, on peut aussi... Donc, on peut se demander, mais est-ce que cette forme-là, est-ce que ça correspond vraiment à une surface de courbure nulle, et donc en un point quelconque de la surface, on va avoir du mal à voir la déviation par rapport au plan. Par contre, on peut la voir en un point très particulier qui est ici le point milieu, donc l'endroit où on a le diamètre minimal, et sur la tranche ici, parce que là, en fait, le plan tangent dont je parlais avant, ça va être un plan qui va avoir une composante verticale ici et une composante qui vient vers nous. Donc ce plan, il est vertical. Et donc, on va décomposer les deux rayons de courbure principaux en un rayon de courbure qui va être dans le plan de l'image et qui va suivre la forme de la tranche ici. Et le deuxième rayon de courbure, il sera dû à l'axe de symétrie de notre système. Et donc, en fait, il va correspondre à la courbure ici, du rayon minimal qui tourne ici. Et donc, quand on essaye d'analyser ça à partir de cette photo, donc on peut tracer un cercle autour de cette valeur donc du col. Donc ici, on l'a mis exprès aplati de façon à vous montrer qu'en fait, ce rayon de courbure R2, il est donc en fait dans un plan horizontal. Et donc normalement, on devrait montrer qu'une seule ligne, mais on rajoute exprès une perspective pour vous rendiez compte que donc on a ici une courbure qui est liée à ce rayon minimal A. Et de l'autre côté, on va pouvoir aussi donc on peut faire cette mesure donc puisqu'on connaît la taille de notre support, on peut simplement par un rapport de longueur en déduire la valeur. Alors ici les valeurs sont pas calibrées, hein, je crois que ça doit être directement sur l'image, donc tu as fait les longueurs. Donc du coup en rapport d'aspect, ça nous donne une certaine valeur pour le diamètre du col, mais qui correspond donc ici à un des deux rayons de courbure. Et pour le deuxième, on va essayer de trouver le cercle qui épouse le mieux la forme dans le plan vertical, donc sur cette ligne de notre forme. Et donc là, quand on fait donc on essaye de trouver la bonne taille du cercle, on trouve que 2R1 vaut 11 cm. Et ici, R2 aurait donc en fait un signe négatif, Et donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 va se compenser parce que les deux valeurs sont quasiment égales. Donc c'est pas exact évidemment parce que bah on a évidemment c'est difficile d'estimer très précisément la valeur de R1 ici. C'est un peu plus facile pour 2A parce qu'on a vraiment les deux extrémités. Et donc on va avoir plus d'imprécisions sur le R1 que sur le R2 dans ce cas-là. Mais on trouve quand même que la courbure moyenne est effectivement quasiment nulle dans ce cas-là. Alors, dans le gros film qui drainait avant, en fait, on voit qu'il y a un amincissement progressif du film qui est dû vraiment au drainage, c'est-à-dire que l'eau coule vers le bas quand même, donc il y a un petit effet de la gravité qui se manifeste par le fait que le film s'amincit progressivement, mais donc ça c'est ce qui apparaît quand on a quasiment des bandes horizontales, mais effectivement le simple fait de souffler dessus suffit à remélanger tout ça, et donc et du coup, on remélange des épaisseurs différentes et c'est effectivement très turbulent. Et après, ça met du temps à se remettre.
Ouais, ça revient après à un écoulement plus laminaire, mais ça met quelques dizaines de secondes, quoi. Ah oui, il faut venir le perturber, ouais. Alors, il y a toujours un écoulement, s'il est vertical, il y a toujours un écoulement dû à la gravité. C'est-à-dire que le liquide a tendance à couler, mais si le film est pas trop perturbé, c'est un écoulement par contre qui est pas turbulent. C'est-à-dire que on peut ça, il y a des collègues qui l'ont beaucoup étudié parce que c'est important pour comprendre la stabilité des mousses ou la stabilité des films fins quand on veut tirer des films fins. On peut mesurer l'épaisseur du film en fonction de la hauteur à partir des interférences typiquement. Il est déjà 19h15 donc en fait il faut qu'on avance un peu.
Mais bon. Voilà, donc on peut faire une analyse un peu plus complète en utilisant la solution analytique et en traçant la forme de la solution analytique sur un contour expérimental. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, il y a les deux solutions qui sont tracées. Donc celle à petit col qui est très loin du résultat, du bon résultat. Et par contre, celle avec le grand col, elle a l'air d'épouser relativement bien la forme que l'on observe dans les deux cas pour des rapports H sur R assez différents dans ces deux cas-là. Donc ça, c'est en utilisant l'équation, la solution de la chaînette avec la révolution autour de l'axe de symétrie.
Et là, les deux, celle en pointillé, donc on n'observe jamais expérimentalement, et celle en trait plein, qui colle très bien avec l'expérience, c'est deux surfaces à courbure nulle en tout point. Et a priori, c'est les seules qui s'appuient sur ce cadre avec la surface de Goldschmidt. Du coup, on propose qu'on. Bon, il y avait juste une. On peut passer assez vite. C'était juste pour montrer que cette instabilité là, au moment où la caténoïde lâche, en fait, c'est celle qui permet de comprendre ce qui se passe quand on forme des bulles. On pourra essayer de le faire après là. C'est-à-dire qu'on souffle à travers le film plan, on pousse un tube. La surface du tube, à un moment donné, coûte trop d'énergie et le tube a tendance à se déstabiliser pour former une bulle. Et donc, la dernière partie de ce qu'on veut raconter ce soir, mais on va aller assez vite dessus, c'est qu'est-ce que c'est que la bulle? Et souvent, alors quand on pose la question à nos étudiants, est-ce que c'est une surface minimale? Ils ont toujours tendance à nous dire oui, parce qu'on apprend souvent que la sphère, c'est la surface la plus petite possible qui entoure un volume donné. C'est-à-dire que pour un volume donné, c'est la surface, en effet, qui a la plus petite R. Mais c'est pour un volume donné, donc c'est avec certaines contraintes. Et par contre, si je regarde d'un point de vue de ce qu'on vous a raconté avant, mathématique, qu'une surface minimale, c'est une surface qui a une courbure nulle en chaque point, c'est clairement pas le cas de la sphère. La sphère, en chaque point, elle a une courbure moyenne qui est 1 sur R plus 1 sur R. Puisque les deux courbures sont dans le même sens, donc la somme des deux fait 2 sur R, et comme il y a un demi devant, ça fait 1 sur R. Ouais. Voilà. Donc, mathématiquement, c'est pas une surface minimale. C'est une surface qui minimise l'air sous certaines conditions, qui sont des conditions de contrainte de volume. Et alors, à quoi ça correspond plus physiquement? Ben, si jamais on regarde un film plan et qu'on regarde les forces de tension de surface, vous voyez qu'ici, à l'équilibre, la somme des forces doit faire égale à zéro. Donc on a un liquide en bas, un gaz au-dessus. Si on, on isole un petit bout de, un petit bout de ce film, là, ce petit bout gris, les forces qui s'exercent dessus, c'est les forces de tension de surface qui tirent de chaque côté. Et là, elles sont égales, elles s'équilibrent. Donc c'est ce qu'on écrit ici. Et puis les forces de pression qui appuient de chaque côté, la pression dans le liquide qui pousse sur le film, la pression dans le gaz qui pousse sur le film. Et donc à l'équilibre, ce que ça nous dit, c'est que les deux pressions, si la surface est plane, les deux pressions doivent être égales. Et ce qu'il y a d'intéressant, alors c'est une loi qui est connue depuis un peu plus d'un siècle et demi, je dirais, qui est due à Laplace en France et à Young en Angleterre, c'est que si la surface est courbée, par exemple dans le cas d'une bulle d'air dans l'eau, ou d'une goutte d'huile dans l'eau, ou d'une goutte d'eau dans l'huile, ou d'un film de savon, à ce moment-là c'est de l'air et de l'air, si la surface est courbée, quand on écrit l'équilibre des forces, vous voyez que comme la surface est courbée, là, les deux tensions de surface, elles sont pas collinaires. Donc elles vont avoir une petite composante, si je faisais la somme de ces deux vecteurs, ça tire un peu vers l'intérieur. Et donc il faut compenser ça. Et ce qui va compenser ça, c'est que la pression entre l'intérieur et l'extérieur doit être différente. Et donc quand on écrit ça mathématiquement, on tombe sur cette loi, qui est une très jolie loi de physique, qui vous dit que la différence de pression entre l'intérieur d'une bulle et l'extérieur d'une bulle, eh ben, est liée à la tension de surface du film et à la courbure, à ce qu'on appelle la courbure, enfin la courbure moyenne ici, comme c'est une sphère, c'est R.
Donc pour une forme plus générale, en fait, on remplace ce 1 sur R d'une sphère par la courbure moyenne à nouveau d'une surface quelconque. Et du coup, on peut aussi avoir d'autres formes que les sphères donc, qui ont des courbures constantes.
Ce qu'on peut peut-être faire, c'est la caténoïde avec les gobelets fermés pour montrer ça. Plus la bulle est courbée, c'est-à-dire plus elle est petite, et plus la pression à l'intérieur va être grande. Donc si vous voulez avoir des bulles de petite taille, il faut avoir des pressions à l'intérieur qui sont, on peut donner des ordres de grandeur, mais qui peuvent être assez élevées. Alors, ça se voit bien sur l'expérience de la caténoïde si on... Donc, peut-être juste pour résumer, en gros, en physique, les surfaces qui sont telles qu'il n'y a pas de différence de pression entre les deux côtés, c'est pour ça qu'on faisait des trous dans les gobelets, c'est pour que la pression s'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur du gobelet. Eh ben, la loi de Laplace vous dit qu'elles vont avoir une courbure moyenne nulle, et donc c'est des surfaces minimales. Dès que vous mettez une contrainte de volume, c'est-à-dire que, ou alors, dit autrement, qu'il peut y avoir une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, c'est plus des surfaces minimales. Et si jamais la différence de pression est la même en tout point, par exemple, c'est ce qui se passe dans le cas des bulles, on a aussi pas mal étudié ça dans le labo, à ce moment-là, la loi de Laplace, elle vous dit que c'est des surfaces, par contre, à courbure constante. Et ça, c'est aussi des surfaces qui sont beaucoup étudiées par les mathématiciens. Il y a toute une famille de ces surfaces qui s'appelle les surfaces de Delaunay. Alors, je vais rebasculer peut-être sur la vidéo, le direct, et puis on va essayer de... Donc là, on a deux gobelets qui sont plus percés. Alors, celui du haut, il est percé pour la ficelle, donc il a un tout petit trou. Et celui du bas, il n'est pas percé normalement. Voilà. Et là, eh ben, on ne voit rien.
Mais il vient de casser.
Il a cassé ?
Oui, il vient de casser.
Normalement, c'est assez différent. Alors déjà, la forme, on pourrait voir, hein, si on faisait une étude propre, que c'est pas une caténoïde. Elle dévirait, elle ressemble un peu à l'œil comme ça, mais si on regarde de près, c'est pas une caténoïde. Tout ça parce que quand on tire, là, on diminue la pression à l'intérieur puisqu'on augmente le volume accessible à une quantité de gaz qui est fixe. On diminue la pression du gaz dans les gobelets. Voilà. Ce qu'on voit, en principe, si ça marche pas, ce qu'on voit quand le gobelet du bas est fermé, c'est quand le film se rompt, la surface de Goldschmidt, c'est plus une surface de Goldschmidt, c'est plus un disque, c'est une calotte sphérique. Parce qu'on a emprisonné de l'air dans le gobelet à plus haute pression qu'à l'extérieur, en gros. Ça marchait bien tout à l'heure. Alors, ce qui était joli tout à l'heure aussi, c'est que lui, il a un tout petit trou ici par lequel on a passé la ficelle, et du coup, on voit une calotte sphérique qui finalement vient... Voilà, vous la voyez là ? Ouais, c'était...
Là, on voit qu'elle est en train de se résorber progressivement.
Elle est en train de se dégonfler très rapidement parce que l'air est à plus haute pression ici, donc il sort par le petit trou. Donc, en étudiant ça, on pourrait calculer combien de molécules d'air sortent par le petit trou. On termine peut-être par la petite manip avec les deux seringues. Si. Ah, celle-ci d'abord. Peut-être, et puis celle-ci, on peut la faire en rangeant. Ouais, d'accord. Donc, juste pendant que tu la prépares, je raconte vite fait. Alors, une conséquence de ça, c'est que si je fais deux bulles avec les mêmes produits tensioactifs dans les mêmes conditions, deux bulles, par exemple, de savon là dans l'air, et puis que je les connecte par un petit tuyau, deux bulles de taille différente, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je prends une grosse bulle, alors elles sont pas très différentes là, mais une grosse bulle, une petite bulle, et puis je les connecte par un tuyau. Alors ouais, c'est la réponse classique, elles vont s'équilibrer. Alors, je vais voir si Pierre arrive à faire l'expérience. C'est toujours mieux la démonstration par l'expérience. Pardon ? Alors, il ne faut pas qu'il y ait de paroi entre les deux. C'est-à-dire que je les connecte vraiment. Donc là, on a un petit dispositif, vous voyez, on a deux seringues. On a des connexions là en T. Peut-être si tu tournes un tout petit peu pour qu'on voit de profil. Non, pivoter autour du grand axe. Voilà.
Oui, mais...
vous voyez, il y a une connexion comme ça et une connexion comme ça. Donc là, on pousse deux bulles. Peut-être tu peux tourner encore un peu, Pierre. Voilà. Vous voyez, une petite, une grande. Puis maintenant, on va les connecter ici. Ça marche. Si ça tient suffisamment le temps que tu manipules toutes les vannes.
Elle devra déjà être.
Alors là, c'est possible qu'il y ait un film de coincé entre les deux.
Sans doute, oui.
Celle-ci, elle est toujours délicate, mais quand elle marche, elle est vraiment spectaculaire. Mais si vous repensez à la loi de Laplace, la loi de Laplace vous dit que la pression est la plus élevée dans la petite bulle. Et donc, si la pression est la plus élevée dans la petite bulle, ah ben voilà, la petite bulle doit se vider dans la grande.
Ouais.
Elle va venir gonfler la grosse bulle. Elle va venir gonfler la grosse bulle jusqu'à ce que, à l'endroit où il y avait la petite bulle, il y ait une calotte sphérique, toute petite, mais qui a le même rayon que la grosse bulle finale. Que la pression doit être la même. Alors, là, on se rend compte, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, quand ça s'est dégonflé, ça a formé une sorte de cloque, de petite cloque. C'est parce que le produit commence à probablement à être un peu trop épais, là. Mais c'est vraiment le réflexe. On a tous, enfin, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, quand on nous a posé la question, on a tous répondu, ça va s'équilibrer. C'est marrant, c'est vraiment un réflexe naturel d'imaginer que ça va s'équilibrer. Mais... Ah.
Non, non.
Ça commence à être un peu... Ce qui est dur avec ce genre d'expérience, c'est que ça dépend beaucoup des conditions un peu atmosphériques autour, de la température, et donc des fois, rien que le fait d'être nombreux dans une pièce, au bout d'un moment, ça finit par être moins... Là, par contre, attends. Il y en a vraiment une petite et une grande.
Oui, mais elle devrait être connectée déjà.
Ouais, j'ai l'impression qu'il se bouche un peu en fait.
Ouais.
Ouais.
Je pense que c'est.
Ah voilà.
Elle se perce.
Ouais, percée. Ça y est.
Ouais, elle est percée. Et d'ailleurs, tu vois bien que même percé...
Oui, en fait,
il doit y avoir du liquide à l'intérieur. Je suis désolé. C'est...
Bon, bah, du coup, on va terminer avec l'ellipse, alors. Ouais. Ouais, donc, désolé, celle-ci. Alors, celle-ci, en plus, on n'a pas de film. Mais bon. Et la dernière chose qu'on voulait vous montrer, c'est Ce qu'on a pas mal fait ces dernières années, alors c'est pas notre sujet de recherche principal, hein, mais on aime bien s'amuser et on trouve qu'en particulier c'est très formateur pour les étudiants. Alors ça, c'est un sujet qui avait jamais été vraiment abordé. Enfin, on n'a pas trouvé grand-chose. Je sais pas si vous le voyez là, mais on a fait des cadres qui sont des ellipses. Donc on a essayé de former des sortes de, on appelle ça des pseudo-caténoïdes, mais des surfaces minimales qui s'appuient sur des ellipses. Alors ça ressemble un peu à la caténoïde, c'est pareil, à partir d'une certaine hauteur, ça se déstabilise. Avec deux ellipses, ce qu'il y a de rigolo, c'est que maintenant il y a un degré de liberté supplémentaire, c'est-à-dire que les ellipses, elles ont un grand axe et un petit axe, une par rapport à l'autre. Donc l'angle que font les grands axes des deux ellipses, ça nous rajoute un paramètre supplémentaire. Alors on s'est amusé avec ça, on a mesuré des forces, mesuré des profils, fait des théories qui essayent de décrire ça, qui sont des théories approchées, il n'y a pas de solution exacte. Mais il y a un effet qui est rigolo, qu'on aime bien, et on voulait finir sur ça, c'est que, en fait, c'est un système, quand on tourne un peu une ellipse par rapport à l'autre, et ben ça augmente un petit peu son énergie. Et donc, si on lâche maintenant et le cadre et qu'il est capable de tourner autour de son axe, et ben en fait, on va avoir ce qu'on appelle un pendule de torsion, mais avec un film liquide. Donc, ça va se comporter un peu comme un ressort liquide, un ressort de torsion liquide. Alors, je sais pas si tu vas y arriver. Je suis sûr que si. Voilà. Donc là, on tend le film. Voilà. Donc on le voit. Comment ça ressemblait. Et maintenant, on va faire. Tu veux la ligne un peu, ouais. On fait tourner, et ça fait tourner l'autre. Ça suit. Et maintenant, on peut peut-être essayer de l'écarter, celui du dessus, non ? On est lui, maintenant. Alors le film est toujours là, on le voit un petit peu quand même à la caméra. Tu veux tourner celui du haut, non ?
Tourner.
Voilà, on a quelque chose qui oscille. Et c'est vraiment parce que le film fluide, et quand le cadre du haut se désaligne de celui du bas, le film fluide tire dessus, exerce un couple et tend à la ramener. Et on peut étudier ces oscillations et par exemple utiliser ça pour mesurer la tension de surface. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait raconter sur les surfaces minimales. C'est un domaine extrêmement actif en mathématiques. Nous, on n'est pas mathématiciens, mais c'est un domaine extrêmement actif en mathématiques qui est au carrefour de plein de domaines des mathématiques. C'est assez fascinant. C'est pas que de la géométrie, en fait. Et le monde aussi des surfaces de courbure constante est un monde assez fascinant. Alors on peut, s'il y en a que ça intéresse, mais il faut toujours pareil, il faut finir vite le soir, mais on peut tendre des films, des surfaces minimales sur des cadres très différents. Par exemple, sur un cube comme ça, là, c'est assez joli ce que ça fait.
Mais là, je sais pas si vous avez vu à la fin, le film a cassé, mais au moment où il a cassé, le cadre du haut a fait quasiment un tour complet parce que j'avais tordu le fil pendant un petit moment. J'étais arrivé à le tordre grâce au film et la disparition du film, en fait, l'a fait revenir à sa place d'équilibre, et donc ça montre bien.
Ce qu'on peut essayer de faire pour finir, c'est vider là-dedans et essayer de montrer une surface minimale sur un cube, par exemple. J'avais un entonnoir, mais il est là-haut. Bon, on va sûrement en foutre partout. Même pas. Ah, oh, c'est pas drôle.
Pas complètement.
Là, typiquement, alors, est-ce que je vais avoir assez?
Ça arrive ou pas ?
Sur celui-ci, c'est un peu court.
Je ne sais pas si on le voit bien là. Yes. Donc là, sur un cadre compliqué comme ça, la surface minimale, ben, bien sûr, elle est assez compliquée. Vous voyez qu'il y a des sortes de plombs avec au milieu une structure, ce qu'on appelle des vertex, et puis des bords de plateau. Donc ça, c'est une surface minimale. Pierre en a fait une autre sur le cube, là. Alors elle est marrante. Donc, elle a un petit carré au milieu. Ça, c'est des structures qu'on retrouve en particulier dans les mousses aussi. Commence à y en avoir de partout. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais rajouter quelque chose, mais bon. Voilà, donc il y a des. Alors, si vous tapez surface minimale sur Internet, vous allez trouver des tas d'images qui sont très belles. Il y a celle-ci aussi qui est jolie.
Ah, c'est très très glissant.
Ici, qui est sur une spirale, elle est assez connue aussi en mathématiques. Alors là, la spirale, j'ai dû la déformer beaucoup pour qu'elle trempe dans le liquide. Mais bon, voilà. On va arrêter là.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Oui, si vous avez des questions, bien entendu. Oui. Est-ce qu'il y a des applications pratiques? Eh bien non, ça ne sert absolument à rien. À amuser les enfants, pardon.
Non, évidemment, les mousses, c'est pas uniquement pour jouer. Hein, enfin, évidemment, la mousse de bain, elle sert en grande partie à ça, mais il y a beaucoup de mousses industrielles aussi. Alors aussi bien dans l'agroalimentaire que dans le BTP, hein, les mousses isolantes, les choses comme ça. Donc il y a beaucoup de gens quand même qui travaillent là-dessus, qui essayent de faire des mousses avec des propriétés nouvelles, en essayant de jouer sur la façon dont les bulles s'organisent ou se déforment mutuellement, essayer de voir si on arrive à obtenir des propriétés mécaniques plus intéressantes, parce que généralement les propriétés mécaniques, comme c'est quasiment que de l'air. Elles sont pas terribles mais elles sont très bonnes par rapport à la proportion de solide qu'il y a. Mais on voudrait encore les améliorer pour avoir très très peu de matière, de façon à faire par exemple un bon isolant thermique, mais une résistance mécanique de meilleure qualité pour éviter le vieillissement, des choses comme ça par exemple.
D'autres questions? Oui, allez-y.
Ah oui, alors il y a une variante de la surface de la caténoïde qui est la caténoïde avec un film au milieu qui ressemble un peu à un diabolo, là, si vous connaissez le jeu. Donc il y a en plus un film plat à mi-hauteur, et à ce moment-là il y a des conditions de raccordement qui sont liées au fait que au niveau du contact entre des films, trois films, il va y avoir toujours un angle de 120 degrés pour qu'il y ait équilibre mécanique, parce que en fait chacun des films tire avec la même tension de surface si on a des films à l'équilibre, et donc ça impose une disposition avec trois forces qui vont avoir la même forme, la même intensité, et donc ils doivent se mettre sur une structure à 120 degrés, de façon à avoir un équilibre. Et donc, en fait, ça revient. Donc, s'il y a un film intermédiaire, on va avoir une partie de caténoïde au-dessus, hein, une condition de raccordement avec le film horizontal au milieu, et une partie symétrique de l'autre côté. Donc, ce qui va faire que la hauteur maximum va être réduite par rapport au cas où il n'y a pas de film au milieu. Mais c'est d'autres solutions, effectivement, qui sont aussi des surfaces minimales, mais avec en plus un film au milieu.
Ce qui se passe dans les mousses avec beaucoup de bulles. Donc en physique, on aime bien simplifier les problèmes au départ. Donc avant de regarder ce qui se passe quand il y a beaucoup de bulles, on regarde ce qui se passe avec deux bulles. Et alors, il y a pour les applications dont parlait Pierre, et on a une collègue qui est, dont vraiment, elle, c'est son domaine d'expertise, et l'idée, c'est d'essayer de modifier les lois physiques pour changer la structure des mousses, pour faire des matériaux avec des propriétés différentes. Une autre application de ces systèmes, auquel on pense peut-être pas, c'est que quand on a un tissu en biologie, c'est-à-dire un assemblé de cellules, ben, ça ressemble beaucoup à des mousses. Il y a des lois qui peuvent ressembler, qui peuvent parfois être un petit peu différentes. Et tous les progrès théoriques qui ont été faits sur les mousses ont été vraiment très fructueux en biologie pour comprendre ce qui se passe, par exemple, lors de la morphogénèse. C'est-à-dire, comment on part, dans la création de la vie, comment on part, après la fécondation de quelques cellules qui, au début, ont une forme complètement isotrope, à un moment donné, quelque chose qui se déstabilise et va donner une colonne vertébrale, une tête, des pattes, etc. Et les physiciens et les biophysiciens ont beaucoup utilisé les modèles développés pour l'étude des mousses sur ces systèmes-là et le font encore beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est aussi une application.
Oui, il y avait une question ici. Est-ce que la levée des pattes est régie par ces lois? La pâte à pain.
Oui, effectivement, c'est nouveau un système plutôt alimentaire, mais effectivement, dans tout ce qui est pâte levée, vous allez avoir formation d'un gaz par une réaction chimique, et ce gaz va créer une bulle dans l'espèce de pâte, qui est en fait un liquide très visqueux, qui est la pâte à pain. Et donc, effectivement, il va y avoir des problèmes de croissance de ces différentes bulles, mais aussi de coalescence qui va faire que dans certains pains, il y aura que plein de toutes petites bulles, alors que d'autres pains ont des énormes cavités parfois, parce que justement, les bulles ont beaucoup coalescé entre elles et donc ont laissé des grands vides par endroits. Ça, c'est typiquement très lié à des histoires de viscosité de la pâte, de vitesse de fabrication des gaz et de, sans compter qu'on est en train de cuire en même temps, dans certains cas.
Beaucoup, une des problématiques sur lesquelles les gens travaillent beaucoup aussi, c'est passer d'une mousse liquide qu'on utilise pour donner la structure, après à une mousse solide, c'est-à-dire la solidifier à un moment donné. Donc typiquement, en agroalimentaire, c'est par une cuisson, mais dans l'industrie chimique, ça peut être par une polymérisation, par une solidification, et on peut créer des mousses très différentes. Il y a ce qu'on appelle des mousses à pores ouverts, où finalement on peut passer continuellement d'un côté à l'autre, et des mousses à pores fermés qui sont plus intéressantes pour des propriétés, par exemple, de conduction thermique. Donc c'est voilà, jouer sur ces propriétés là c'est important pour les applications, ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors juste avant que tout le monde se précipite vers les sorties, comme on a été un peu sponsorisé entre guillemets parce qu'on n'a pas reçu d'argent par l'année de la physique, il y a ici des marque-pages année de la physique, il y a des petits autocollants à mettre où vous voulez année de la physique, puisque cette année c'est l'année de la physique 2023-2024, donc à la rentrée aussi on sera en 2024, donc c'est encore l'année de la physique, donc on vous retrouvera si tout va bien au mois de septembre pour de nouveaux cycles de physique pour tous, voilà. En attendant, même s'il est un peu tôt, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et voilà, plein de bonnes choses. Donc, j'espère au mois de septembre. Merci. Au revoir.